Le journal, Yann Esler.
Bonsoir. Une première journée avec le certificat pour les établissements publics de Suisse. Pour les patrons rencontrés ce matin, c'est plutôt une période de flou qui se présente devant eux. Val-de-Ru met fin à la convention qu'il a liée avec la Chaux-de-Fonds en matière de sécurité publique. Pas d'indépendance néanmoins. Le mandat sera remis à un autre prestataire pour une question de coût. La prison à vie, c'est la peine requise cet après-midi devant le tribunal pénal de la Broye contre le meurtrier présumé d'une jeune fille. Elle avait été retrouvée morte dans les marais de la Grande Carissée en janvier 2018. Et demain, le temps sera d'abord ensoleillé avant de laisser place à des nuages. La pluie devrait faire son retour. Les températures grimperont tout de même à 24 degrés au maximum. Le certificat Covid pour aller au restaurant ou au café, c'est une réalité depuis aujourd'hui en Suisse. La présentation du certificat est obligatoire pour s'asseoir à l'intérieur des établissements publics. Sont exclus de la règle les terrasses. On écoute le reportage de Léonard Reichen ce matin à la Chaux-de-Fonds.
Le soleil invite plutôt à rester dehors ce matin à la Chaux-de-Fonds. Difficile donc de voir une différence liée au certificat Covid. Un petit tiers des tables de ce tea room de la place du marché est occupé et on semble plutôt favorable au certificat parmi la clientèle.
Je suis d'accord avec la mesure et puis si j'ai fait l'effort de me vacciner pour avoir une certaine sécurité et puis pas contaminer mes proches, je pense que le pass Covid, ça va avec.
Totalement, pour pouvoir revivre un petit peu. Puis je pense que c'est la seule solution pour pouvoir essayer de se ressortir un petit peu de ça. Donc aucun problème pour moi.
Quelques tables plus loin, la patronne de l'établissement discute avec ses clients.
Comment tu vois ça, toi? Comment tu penses que tu vas rentrer? Tu vas quand même continuer de venir boire un café dedans?
Pour Lourdiampe, cette mesure est un nouveau coup dur.
Ce matin, on a de la chance parce qu'on a le temps qui est avec nous. Donc j'ai eu quelques clients ce matin très tôt qui ont joué le jeu, malgré que c'est compliqué quoi. Hein, donc j'appréhende l'hiver et puis quand j'aurai le restaurant qui sera plein pour faire tout ce protocole quoi, qui est compliqué. Je suis pour le vaccin, je ne suis pas contre, je sais qu'il faut aller de l'avant, mais c'est de nouveau nous les restaurateurs qui trinquons quoi. Et moi j'ai des clients qui sont vaccinés et ils m'ont dit, tu sais, c'est tout ce protocole, devoir sortir le pass, la carte d'identité pour boire un café. Je ne dis pas que si vous allez dans des endroits occasionnels, voilà, mais celui qui vient trois fois par jour ou qui vient tous les jours, qu'on lui, voilà, c'est difficile parce que on a nos habitués, les habitués, c'est un peu comme une petite famille, hein, j'entends, on se connaît tous. Et devoir lui demander tous les jours son pass, s'il vient deux fois par jour, c'est compliqué.
Bonjour, c'est la brasserie automobile à la Chaux-de-Fonds. Oui, pour quelle date?
Autre son de cloche dans ce restaurant de la Chaux-de-Fonds qui compte une centaine de couverts, le patron fait un accueil mitigé à la nouvelle mesure. Aurélien Benoît.
Quand on regarde un petit peu le nombre de vaccinés ici à Chaux-de-Fonds, on est autour des 55%. On se dit que malgré tout, on nous demande de tirer un trait sur 45% de notre clientèle potentielle. Et nous, on ne peut pas se permettre clairement de baisser de 50% de fréquentation parce que ça met en danger l'équilibre économique de l'entreprise, quoi. Comme on vient de le voir un petit peu là sur notre programme de réservation, on est à 50% de réservation en moins pour ce midi. Pour l'instant, ça s'annonce être une journée... très faible.
La tendance semble être la même pour le reste de la semaine. 10% de réservations contre 15 à 20 habituellement. Et pourtant, ce restaurant a fait le choix de réinstaller sa terrasse.
Pour accueillir tout le monde. C'est surtout ça en fait. Le reste de l'année, on ne l'exploite pas parce que l'établissement ici fait que c'est quand même beaucoup plus agréable, beaucoup plus joli de venir dedans. Là, on a ce plan B. Donc on espère juste que ça fasse un petit peu le tour et que les gens... puissent prendre plaisir à sortir encore sous la tente. Quoi.
Restaurants, cafés, bibliothèques et autres lieux de culture soumis au pass Covid sont dans l'expectative. Ils s'attendent en tous les cas à des prochaines semaines difficiles.
A noter que le certificat Covid devient également obligatoire pour les lieux de culture tels que les musées, théâtres ou bibliothèques, vous l'avez entendu tout à l'heure. La ville de La Chaux-de-Fonds ne sera plus en charge de la sécurité publique à Val-de-Ru. Après 7 ans de partenariat, la convention qui liait les deux communes ne sera pas reconduite en 2022. Les autorités vaudrusiennes expliquent cette décision par un nouveau cahier des charges auquel un autre prestataire a répondu plus pleinement. Un nouveau partenaire dont l'identité n'a pas encore été révélée. Un changement qui était plutôt pressenti depuis plusieurs mois. Val-de-Ru n'avait pas caché cet hiver qu'elle planchait aussi sur la création de son propre service de sécurité publique. Une volonté qui a néanmoins été stoppée, le conseiller communal de Val-de-Ru en charge de la sécurité, François Cuche.
La réflexion était assez cornélienne, si j'ose dire, avec
une volonté effectivement d'être indépendant au niveau de la sécurité publique et puis d'autre part une situation budgétaire qui s'est gradée suite à la votation sur l'adaptation du coefficient fiscal de 2 points à Val-de-Ruz. Donc ces éléments-là ont fait que finalement de notre budget en plus l'équipement d'une sécurité publique à Val-de-Ruz nous paraissait juste pas possible dans le cadre budgétaire qui est le nôtre pour 2022. Il y a des choix qui doivent être opérés et puis malheureusement, l'équipement supplémentaire qu'on aurait dû acquérir pour mettre en route cette sécurité publique n'était plus au programme à la suite de cette votation.
Des propos recueillis par Raphaël Girardin. Les travaux en gare du Locle sont repoussés de plus d'une année. Pour répondre à la loi sur les personnes handicapées qui prendra effet à fin 2023, plusieurs aménagements ont été mis à l'enquête publique en février 2020. Rien n'a encore été commencé, mais un nouveau projet est en cours. Derrière ce retard se cache tout de même un certain flou. Siméon Calame.
On peut même parler de flou artistique qui dure depuis 18 mois. C'est en février 2020 que le premier projet d'aménagement de la gare du Locle a été mis à l'enquête publique. Des travaux doivent être menés pour la mettre en conformité avec la loi fédérale sur l'égalité pour les personnes handicapées, mais ce projet s'est vu chamboulé par la suppression de la ligne des Brenets. Rappelez-vous, en juillet 2020, la Confédération et le canton de Neuchâtel déclaraient vouloir supprimer le train régional reliant le Locle au Brenet au profit d'un bus électrique. Cette annonce avait alors donné lieu à certaines protestations. Le porte-parole des CFF, Frédéric Creva, nous a expliqué que les travaux imaginés en 2020 ont effectivement pris du retard. Selon lui, il n'était plus compatible avec la potentielle suppression de cette ligne régionale qui part du quai numéro 2. Le projet actuel ne vise donc plus que le quai numéro 1. Une personne proche du dossier estime, elle, que dans ce grand flou résonne finalement un manque de temps. Selon elle, les CFF préféraient y aller petit à petit, ce qui n'est pas une mauvaise chose à ses yeux. Cette première phase de travaux est finalement positive pour tout le monde et ne péjore aucun des acteurs du dossier.
Si le projet actuel est en procédure d'approbation auprès de l'Office fédéral des transports, il reste encore des incertitudes quant aux aménagements du quai numéro 2. Frédéric Creva précise que la fin des travaux n'est de toute manière pas prévue avant 2023. Un nouvel hôpital pourrait voir le jour à Delémont. L'hôpital du Jura a réservé un terrain au sud de la gare CFF. Le projet doit permettre de garantir le maintien d'un établissement de soins aigus dans le canton du Jura. Une convention a été signée avec la ville de Delémont. Le nouvel hôpital pourrait voir le jour d'ici 2026-2030. Les parlementaires fédéraux ne devront pas montrer leur certificat Covid pour accéder au palais fédéral pour l'instant. Il n'existe pas de base légale pour exiger ce document, estime la délégation administrative de l'Assemblée fédérale. Les mesures de protection continuent de s'appliquer. Le port du masque est obligatoire. Les cloisons en plexiglas sont laissées en place et les politiciens non vaccinés sont invités à se faire tester régulièrement. Et pour sa rentrée de fin d'été, le Conseil national débat de l'initiative populaire qui veut interdire l'exportation d'armes dans des pays en conflit civil. Une majorité devrait recommander le rejet du texte au profit d'un contre-projet. La clé se trouve dans le contenu de ce contre-projet. Alors est-ce que le Conseil fédéral pourra faire des exceptions? La décision devrait tomber mercredi. En attendant, les partisans de l'initiative dénoncent certaines mauvaises pratiques de la Suisse ces dernières années et exigent que le Parlement et le peuple aient systématiquement le dernier mot. La conseillère nationale verte vaudoise, Léonore Porchet.
Le Conseil fédéral nous a vraiment montré qu'on ne pouvait pas lui faire confiance dans ce débat parce qu'il avait promis au peuple de renforcer les conditions d'exportation et en fait, il les a encore récemment allégées. Et donc, on ne peut pas lui confier cette responsabilité-là. Ça doit être le Parlement parce que c'est aussi une décision qui implique la neutralité.
L'UDC ne veut ni de l'initiative, ni du contre-projet. Le Centre est partagé et le PLR rejette une initiative contraire aux intérêts de l'industrie suisse d'armement et soutient un contre-projet allégé qui laisse une marge de manœuvre au Conseil fédéral. La vaudoise Jacqueline de Quattro.
L'initiative va trop loin. Il n'appartient pas au peuple de décider comment il faut adapter les critères d'autorisation pour l'exportation de matériel de guerre. Il n'en a tout simplement pas les compétences et le texte n'a donc pas sa place dans la Constitution fédérale. Par contre, il est juste d'ancrer les critères d'autorisation de matériel aussi sensible dans la loi et non plus simplement dans une ordonnance. Cela renforce le contrôle démocratique en donnant au Parlement la possibilité d'adapter des critères à tout moment. C'est ce que fait le contre-projet. Des exceptions, chers collègues, doivent être possibles dans des conditions strictes.
Le débat sur l'initiative qui veut interdire l'exportation du matériel de guerre dans des pays en conflit se terminera mercredi matin. Un base jumper a été victime d'une chute mortelle à Grindelwald hier peu avant 14h45. Le défunt avait 32 ans. Après son saut, l'homme s'est retrouvé en difficulté et est tombé au sol en dessous de l'Eiger, a indiqué la police bernoise. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes et circonstances de l'accident. La prison à vie, c'est la peine requise cet après-midi devant le tribunal pénal de la Broye contre le meurtrier présumé d'une jeune fille retrouvée morte dans les marais de la Grande Carissée. C'était en janvier 2018. Le corps de la victime, découvert seulement 2 mois après les faits, était tellement abîmé que même les médecins légistes n'ont pas pu déterminer la cause exacte de sa mort. Pour le procureur, cela ne fait toutefois aucun doute. Sarah Camporini.
La jeune fille est morte d'hypothermie, autrement dit elle est morte de froid, a asséné le magistrat, abandonné alors qu'elle respirait encore par un homme qui l'a frappée et a abusé d'elle. De ça aussi le procureur en est certain, ce n'est pas pour un motif financier, mais bien parce que la victime l'a éconduit que le prévenu a agi. Avec préméditation, estime le magistrat, en témoigne le maillet dont il s'est muni ou encore les serre-joints, le mousqueton et la corde qui ont servi à l'entraver. Mais comme l'a rappelé le procureur, c'est avant tout pour son caractère particulièrement égoïste et commis sans le moindre scrupule que l'acte du prévenu doit être qualifié d'assassinat. Il lui a pris non seulement sa vie, mais aussi sa dignité. Ce sont sur ces mots que le magistrat a conclu son réquisitoire en rappelant que le jeune homme a laissé le corps de la victime pourrir pendant près de 2 mois au milieu des roseaux. Au terme d'un des réquisitoires les plus terribles de sa vie, comme il l'a qualifié, le magistrat a donc requis la prison à vie. Il ne voulait pas la mort de la jeune femme. C'est ce qu'a plaidé l'avocat de l'accusé. Ce n'est pas un assassinat, il n'y a pas eu de planification réelle. L'accusé s'est limité à un seul coup donné sous la colère, a encore souligné le défenseur du prévenu qui a relevé la collaboration immédiate de son client dès son arrestation. Quant à la cause de la mort, ce n'est pas l'hypothermie que retient l'avocat, mais la noyade. Il estime que c'est un homicide involontaire, voire un meurtre qui doit être retenu contre son client. Quant aux abus sexuels, rien ne les prouve. Il estime donc qu'il doit en être acquitté.
Le verdict sera rendu ce mercredi à 17h.
RTN, il est 18h12.
Sport. En cyclisme, Alexandre Balmer et Valère Thiébaud sur leur lancée des championnats d'Europe. Le Chaudefonnier et le Vaudrusien ont été retenus pour les championnats du monde de cyclisme sur route. Ils se tiendront du 19 au 26 septembre prochain dans les Flandres. Les deux participeront au contre-la-montre des moins de 23 ans lundi 20 septembre et Alexandre Balmer sera encore aligné dans la course en ligne du 24 septembre. En hockey sur glace de Lugano au CP Berne, Romain Löffel change de club avec effet immédiat. L'ancien junior du HC La Chaux-de-Fonds a signé un contrat de 4 ans avec le club de la capitale. Il quitte donc le Tessin et le HC Lugano, club avec lequel il évoluait depuis 3 saisons.